D'une autre langue, d'autres catégories, d'autres. Alors il y a de très belles traductions littéraires de la Bible, mais c'est des traductions littéraires de la Bible, mais qu'en hébreu. Et en hébreu de la Bible. Sinon, on lit un pastiche. Et au fond, l'étude orale, la Torah Sheba'al Peh, a pour objet de nous remettre dans la signification hébraïque des mots hébreux du temps où ils ont été donnés à Israël, il y a longtemps. C'est cette mémoire traditionnelle qu'il faut récupérer pour savoir lire ce texte. Alors que les modernes inversent la méthode. Ils font comme si ce texte n'avait aucun sens et il n'a que le sens que le lecteur y projette. Vous avez compris ce que je veux dire ? Alors c'est l'inverse. L'objet du commentaire traditionnel, c'est de nous permettre de remonter dans le temps de signification culturelle de cette langue comme elle a été donnée à ceux à qui elle a été donnée. Ce texte a été donné par les prophètes à partir de la sortie d'Égypte. Donc il faut se remettre dans la signification de l'hébreu de ce temps, parlé par les prophètes. C'est ce que le Midrash va nous aider. Vous allez avoir des surprises avec ce Midrash. Toutes les questions que nous pourrions nous poser au texte, le Midrash les fait éclater. Ils vont en poser d'autres. Vous y êtes juste là. Alors je voudrais arriver vite à la fin de l'introduction. Revenons donc à notre texte, nous sommes à Akarahi, verset 30 du chapitre 11. C'est bien ça? Oui. Bon, je continue. Alors voilà, verset 30, Batehi Sarai Akara en Lahvalad. Bon, on ne va pas prendre trop de temps, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. On a reconnu, ce n'est pas stérile, mais infertile. Elle n'avait pas de valad, progéniture, enfantement. Vaïkar Terar, et Terar prit Abraham Beno, Abraham son fils, avec Lot ben Haran ben Beno, et Lot fils de Haran, fils de son fils, donc petit-fils de Terar, neveu d'Abraham, avec Sarai Kalato et Sarai Sabru, échec Abraham, femme d'Abraham, Beno son fils. Alors lisez bien cette expression, Vayetse Ulita Meur Kasdim, et ils sortirent avec eux Terar et Abraham, de Ur Kasdim, la Lechet Artsaknaam. Pour aller en direction de la terre de Canaan. Et c'est dit avant l'Echecha. Vous voyez, c'est clair? Vayavou, Al-Haram, Vayishibushan. Et ils arrivèrent jusqu'à Haran, qui est une ville à la frontière entre le pays d'Ur-Kasdim et le pays de Canaan. Et c'est après, on continue. Vous êtes à quelle page? La suite. Hein? Vayivou, Yemeterach, nous sommes. Yet, et les jours de Terar furent, Kameshani Momataim Shana, 205 ans, Vayamon Terar Becharan, et Terar mourut à Haran. Alors très rapidement, avant de voir la suite, nous avons donc quatre tentatives de sortie de Kasdim. Terar sort avec Abraham, mais il va s'arrêter à Haran. Haran, son fils, ne peut pas sortir, il meurt là-bas devant son père, vous vous rappelez? Mais il délègue Lot, son fils, qui va aller avec Abraham. Ce sont autant d'identités de la famille d'Abraham dans cette aventure de déconnecter de l'exil de Kasdim pour rentrer au pays de Canaan. Nahor reste là-bas. Et il fait souche, et c'est chez lui qu'on va trouver les femmes pour les enfants des patriarches. Rivka, Léa, Rachel et leurs servantes. C'est clair? Et il faudrait que nous suivions l'histoire de chacune de ces identités, mais nous allons suivre centralement celle d'Abraham, et corollairement, je donnerai tel ou tel éclairage sur tel ou tel des personnages d'après le Midrash. Et c'est juste après que nous avons le verset de l'Echecha. Alors on a appris que cette famille sort de Kasdim pour aller dans le pays de Canaan, donc vous savez où ils allaient. Et puis, sur le chemin, Dieu se révèle à Abraham et lui dit « Lech Lecha ». Alors, je reprends ce verset avec vos questions. Alors, prenez le « Lech Lecha », Dieu lui dit, chapitre 12. « Voyons vers Hachem et Abraham, Lech Lecha, Me'artzecha, Me'artzecha, sors de ton pays, de ton lieu natal, Me'betavicha, ta maison paternelle, et la arrête ta sœur avec quatre vers le pays que je te montrerai. » Où est la difficulté? Ben, c'est plus la difficulté de tout à l'heure. Cette famille savait où elle allait. Elle rentrait chez elle, tout simplement. Mais ici, il y a une autre difficulté, puisque elle savait où elle allait en direction de Canaan. Est-ce qu'il y a un changement de mot d'ordre? Est-ce qu'il y a un changement de consigne au pays que je t'indiquerai? Et il ne l'indique pas. Alors on arrive à la deuxième expression de l'Echecha du chapitre 22, Bzied, verset 2, Velechecha Eleretz Amoréa. Alors le Midrash va nous expliquer, je vais un peu rapidement pour vous faciliter l'étude, va nous expliquer que le Lechecha du début ne se dévoile qu'à la fin, qu'il s'agissait d'aller par en général dans le pays de Canaan, d'y aller, mais d'aller à ce qui va se passer sur la montagne de Moria, c'est-à-dire le sacrifice. Alors avec le Midrash va nous mettre en évidence une lecture qui nous était insoupçonnable. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon, alors ça nous permet déjà d'aborder la lecture du Midrash. Prenons le texte du Midrash. Amar Rabbi Levi. C'est la page 96 dans le Midrash. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi a enseigné. Shtol pe'amim ketiv lechlecha. Il est écrit deux fois lechlecha. Venan yurim ezur chaviva. Et nous ne savons pas laquelle des deux fois était, avait le plus de prix, le plus de valeur aux yeux de Dieu. Chaviva. Précieuse, aimée, imachnia ou arishona, la deuxième ou la première. C'est-à-dire, quel est l'essentiel dans cette consigne que Dieu donne à Abraham? La première fois, lorsqu'il lui a dit, quitte ton pays, ta maison paternelle, etc., et va vers la terre que je te montrerai. Ou la deuxième fois, lorsqu'il lui dit, une fois arrivé au pays de Canaan, lech lecha el eretz Moria, va pour toi sur la montagne de Moria. Mima je dirti, mima dirti, réponse du Midrash. Par le fait qu'il est écrit pour la deuxième fois, elle est restée à Moria, avec la désignation très précise de là où il faut aller, Haré, Heve ou Haré, Heve, oui, on en conclut, Ashniya Chaviva Minarishuma. La deuxième est plus précieuse que la première. Ça veut dire que l'objectif de cette sortie d'Abraham et de sa famille d'Ur-Kasdim est premièrement dans la pensée de l'initiative humaine, d'aller au pays de Canaan. Mais lorsque Dieu se révèle, il précise d'aller au pays de Canaan sur la montagne de Moria. Vous voyez qu'il y a là une lecture qui était insoupçonnable. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pour ceux qui sont familiers à ce texte. Alors c'est très important. Il y a, semble-t-il, deux niveaux de l'objectif, du même objectif. D'abord, quitter Ur-Kasdim pour aller au pays de Canaan, ceci ne requiert aucunement la révélation de Dieu. C'est une initiative de la famille d'Abraham. Mais lorsque Dieu se révèle, c'est pour préciser de quoi s'agissait-il. De quoi s'agissait-il? De ce qui se passera sur la montagne de Moria. C'est pour ça que Dieu habilite la sortie d'Ur-Kasdim pour arriver au pays de Canaan. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on pourra recoder avec les événements contemporains. Je laisse ça de côté. Vous voyez à quel point quelle est la portée de ce Midrash pour nous. Pour nous aujourd'hui, qui revivons à l'échelle d'une société, ce qui s'est passé pour Abraham en son temps. Et pratiquement dans le même événement, je veux dire. Alors on peut continuer, pour le moment nous établissons la lecture du Midrash. Ensuite on étudiera, on continue. Amar Rabbi Yochanan. À ce sujet donc, Rabbi Yochanan enseigne. Lech lecha me'artzecha. Alors là, je commence à reprendre votre question tout à l'heure. Rappelez-moi votre nom, rappelez-nous. Oui. Alors la question de Réhouven. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan enseigne. Lech lecha me'artzecha, va de ton pays. Tout le monde est d'accord? Le sens simple de Eretz, c'est pays. Va de ton pays. Alors là, nous avons un mot en araméen. Mais iparchia shelach. C'est en araméen, donc il y a shelach. Et pas shelcha. Mais iparchia, c'est la médina. Regardez les commentaires en bas. Je l'ai dit araméen, je me suis trompé, c'est un mot grec passé dans l'araméen. Vous l'avez dans le commentaire en hébreu, pour ceux qui disent hébreu, vous avez le mot à la fin de la quatrième ligne. Et on en hébreu, médina, et on vous donne le mot grec. Vous y êtes? Donc. Alors ça veut dire, ce que tu crois être ton pays, eh bien ce n'est que ta médina. Ouais, ta médina, ça veut dire l'état où tu vis. Vous voyez comment le Midrash va nous décaler le vocabulaire. Mais rappelez-moi qu'on explique pourquoi. Pourquoi le Midrash nous a dit, ce que tu lis là, ne le lis pas comme ça. Voilà comment il faut le lire. Là où il y a ton pays, ça veut dire l'état. C'était quitter Orcasdim en tant que pays. Mais pourquoi quitter Orcasdim en tant que pays? L'état auquel était arrivé l'empire d'Orcasdim était tel que c'est ça qu'il fallait quitter. C'est clair? La situation d'Orcasdim était devenue totalitaire, concentrationnaire. Rappelez-vous le Midrash qui dit que Nimrod, le roi de Babel de Orcasdim, avait jeté Abraham et sa famille dans la fournaise. Et que Abraham était un rescapé de la fournaise de Orcasdim. C'est cette Médina-là qu'il fallait quitter. Lorsque les Juifs ont quitté l'Espagne, c'est pas l'Espagne qu'ils ont quitté. Ils voulaient pas quitter l'Espagne. Ils ont essayé de refaire l'Espagne parce qu'ils sont arrivés. Même à Salonique. Quel rapport entre Salonique et l'Espagne? Les Juifs ont fait de Salonique une Espagne. Par exemple, Amsterdam, en son temps, c'était le Portugal. Eh bien, ils ne quittaient pas l'Espagne, ils quittaient l'Inquisition, pas l'Espagne. C'est clair? Alors, vous voyez, ce midrash nous rend un peu plus intelligents. Alors, on continue. Umulatecha, et ça que tu dis ta patrie, ton lieu natal, soshkunatra, c'est ton lieu de résidence. Parce que la patrie de cette famille, c'était le pays de Canaan. Vous voyez quelle est l'intention du Midrash? C'est-à-dire de nous faire comprendre ce texte qui apparemment va nous suggérer qu'Abraham était mésopotamien. Or nous savons qu'Abraham était hébreu. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, pourquoi c'est rédigé comme ça? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Je continue. « Mivet avicha, zo bet avicha. » Arrête ta maison paternelle, ça c'est ta maison paternelle. Vous voyez? C'est clair? Bon. Alors, avant de continuer, j'essaie de l'expliquer en vous rappelant un souvenir de ma propre expérience. Avant de faire ma alia, j'allais tous les ans chez le Rav Kook avec un groupe d'étudiants qui nous allions étudier chez le Rav Kook. Et alors il avait l'habitude de demander, d'expliquer aux étudiants, ça durait une heure, que ça dire Shalom Aleichem. Le premier cours c'était Shalom Aleichem. Bon, un jour je ferai ce cours-là. Et après il en choisissait un dans le groupe. Je veux dire, d'ailleurs, c'était les premiers groupes des yeshivos d'Eretz Israël où on étudiait garçons et filles ensemble. C'était le groupe avec dans de France sur la coupe. Maintenant, c'est assez familier. Okay, c'est la première. C'est un chidouche. Bon, ben, très bien, ça se passait chez lui. Il avait fait apporter des bandes de la yeshiva chez lui et ces bandes sont restées 40 ans. Ils y sont encore. Bon, je reparle la parenthèse. C'était les premiers groupes d'Orsay. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette école légendaire. Et alors, peut-être que d'entre vous, vous étiez dans ces voyages, donc les promotions avant et après. Et alors, il en choisissait, il demandait d'où tu es. Alors, je vous prends un exemple imaginaire, un typique exemplaire. Imaginons un Marocain. Alors, je parlais avec du Maroc. Je vous ai raconté ça déjà. Mais là, avant d'encore, parce qu'il n'est pas là, où ça soit bien clair, c'est ce midrash-là. Okay. Alors, il disait, mais avant, du Maroc, et avant, vous allez avoir un séminaire des juifs marocains là, à la fin de la semaine, vous allez voir, ils sont tous du Maroc. Et leur ambassadeur, c'est l'ambassadeur du Maroc. Alors, du Maroc. Non, mais avant. Ah oui, d'Espagne. Il y aura l'ambassadeur d'Espagne aussi, vous allez voir. Alors il continue. Et avant, elle a d'Espagne, mais avant, jusqu'à ce que la lumière se fit, elle dit, ah oui, de Jérusalem. Il disait, alors bienvenue chez toi, tu reviens chez toi. Ne me raconte pas que tu viens du Maroc, que tu reviens de Jérusalem en passant par Paris. Vous avez compris, c'est très clair, c'est ce que ce midrash dit. Tu crois que Arsecha, ce que tu dis Arsecha, c'est Arsecha? Pas du tout. C'est Shkunatra. C'est clair? Voilà. Le Midrash est simple. Et vous voyez ce qui est apparu de la lecture du Midrash. C'est-à-dire que ses rabbins savaient que ces problèmes posaient à nous. Alors ils nous ont dit, ben voilà comment il faut lire ce texte. On avance. Je termine pour ta question. On croit que la Aliya, c'est d'abord quitter sa maison paternelle. Ensuite, sa shruna, sa résidence du 16e arrondissement, et après seulement la France, mais c'est pas vrai, il faut décrocher à l'inverse. C'est clair? C'est pourquoi l'ordre est celui-là. T'as compris? D'accord. Alors, on continue, la suite du verset avec le Midrash. Et la arête, sa chère arête. au pays que je t'indiquerai. Vélama l'obilal. Et pourquoi il ne l'indique pas tout de suite? C'est clair, la question? Réponse. Kedele haveva beina. Pour, arrêter au féminin, donc pour le rendre précieux à ses yeux. C'est-à-dire, si on disait aux Juifs de l'exil, eh bien, tu iras à Beersheba. C'est là-bas que sera ta maison, en fin de compte, ta maison messianique. Beersheba, c'est quoi? Non, alors on lui dit d'abord, tu iras là-bas, à Yerushalayim. Et après, arrivé à Lod, il me dira, ben, tu sais, toi, c'est à Ramoria. Et puis, bon, ça c'est un peu lourd, mais ça veut dire que il faut le temps de s'adapter au processus qui est nécessaire à Abraham pour passer de l'homme l'hébreu de civilisation Kazim, de passer à l'aventure, de retrouver son identité hébraïque du pays de Canaan, pour le lui rendre précieux, Haviva en hébreu, il y a une mise en attente. Et c'est très parallèle avec ce que nous allons lire, alors reprenez le chapitre 22, avec ce que le Midrash d'ailleurs, je ne l'ai pas fait photocopier, mais je vais le lire oralement, sur le chapitre 22, verset 2, à propos du sacrifice d'Isaac. Vayomer, Kachna et Bincha, et lui dit, prends donc ton fils, et Yitzra, ton unique, et Asher Ahavta, que tu aimes, et Yitzrak, Isaac. Alors je vous dis comment le Midrash l'explique, et ça va être redit dans notre Midrash d'une autre manière. Mais je cite maintenant un autre Midrash, et on va recoder. Alors Dieu dit à Abraham, prends donc ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac. Et on pose la question, pourquoi il n'a pas dit tout de suite, prends Isaac? Alors voilà les étapes. Prends ton fils. Et Abraham répond, j'en ai deux. Lequel? Que tu es l'unique. Il répond, chacun est unique pour sa mère. On croirait lire le monde. Chacun est unique pour sa mère. Lequel? Celui que tu aimes. Il répond, je les aime les deux. Alors Dieu lui dit, Isaac. Vous voyez qu'on est en train de passer toutes ces étapes. Et alors notre Midrash va dire, afin de lui mettre en évidence le prix que cela a aux yeux de Dieu, c'est toutes ces étapes. Il est le fils unique, aimé, Isaac. La bifurcation est à la fin. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, nous reprenons le Midrash là-bas. Mystère. Ve'ite nosra al kol psia o psia. Et pour lui donner un mérite pour chaque pas. C'est-à-dire, chaque pas fait avancer dans la découverte du but. Mais c'est chaque pas qui a un mérite propre. Au Sindra, c'est d'une précision extraordinaire. À chaque pas, il y a un sra, un salaire de l'effort. Et je vous rappelle ce midrash qui peut être lié là. Dans le Talmud, on enseigne que le jour du jugement, et les tzadikim, les justes, et les rechaïm, les méchants pleureront. Les justes pleureront parce qu'ils verront derrière eux un précipice qu'ils ont traversé, et rétrospectivement, ils pleureront de frayeur. Comment on a pu traverser ça et arriver à votre vie? Et les méchants pleureront parce qu'ils verront devant eux un fil qu'ils n'ont pas pu traverser. Or, le fil et le précipice ont la même épaisseur. Et quand c'est, avant l'effort, on voit un précipice. Mais après l'effort, c'était que ce fil. Et alors, ce salaire-là est donné à chaque pas, à chaque pas. C'est clair, il n'y a pas à ajouter de commentaires. Hi d'arté de Rabbi Yochanan. Et cela, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan avait enseigné à propos du sacrifice d'Isaac, Vayomer, et il dit, Karna et Bincha, prends ton fils et Yadira, ton unique, Amarlo. Abraham a répondu, Zeyachid Leimo, Zeyachid Leimo, celui-là est unique pour sa mère et celui-là est unique pour sa mère. Amarlo, Asher Ahavta, celui que tu aimes. Amarlo, Abraham lui a dit, Beit Trumim Memeraya, est-ce qu'il y a des secteurs dans les entrailles? C'est très bien dit. Il y a celui que tu aimes, je les aimais deux. Et qu'Abraham, de notre temps, aurait été Shalom Arshav, sans problème. Okay. Un Shalom Arshav sincère. C'est Sarah qui va intervenir, qui allait coucher mon livre. Elle va dire, c'est parlé. Et la Torah a tranché. C'est Sarah qui a raison, c'est pas Abraham ici. Vous connaissez l'enseignement du Talmud de cette histoire, on apprend que Sarah était prophète et qu'elle était plus prophète qu'Abraham. Le Talmud nous a dit ça il y a des milliers d'années, à propos de cette histoire. Et d'ailleurs, on a tiré un dicton populaire de la sagesse talmudique. Si ta femme est plus petite que toi, baisse-toi pour l'écouter. Et Amarlo est Israël. Alors, lorsqu'Abraham a dit, mais est-ce qu'il y a des secteurs dans les entrailles? Alors, il lui a dit, Israël. Vela Malogilalo, pourquoi ne lui a pas révélé tout de suite qu'il s'agit d'Isaac? Quel est le Havevo Ven pour le lui rendre précieux à ses yeux? Alors là, c'est difficile. Quelle est la question? Il fallait que Dieu dise à Abraham, tu sais, c'est Isaac et Isaac. Et le lui rendre précieux. Alors que c'est à relier au fait que, vous relirez dans le texte biblique, plusieurs fois de suite, Dieu doit répéter à Abraham, tu sais ce que je t'ai promis, c'est bien ce que je t'ai promis, de Sarah tu auras un fils. Vous vous rappelez de ce récit? On s'étonne toujours, est-ce qu'Abraham manquait de foi? Il a fallu que Dieu enfonce le clou aussi souvent jusqu'à ce qu'enfin, il y ait ce verset, Vehemin Bachem, alors enfin, Abraham a cru en Dieu, et l'objet de la foi c'était la promesse de l'enfant. Vous vous rappelez de ce thème dans la lecture biblique? Alors ce qu'il faut découvrir, c'est qu'effectivement, il y a tout un processus de dévoilement de l'évidence qui pour nous semble être une évidence immédiate. Pour qu'Abraham devienne Abraham, il a fallu longtemps et des efforts, et chaque étape de ces efforts a son salaire, et ça n'est pas, cherchons-moi en français, invraisemblable. Il fallait qu'Abraham fasse effort pour finir par croire qu'il aurait un enfant. De nouveau, l'humour de la vie. C'est si difficile de cela. La foi d'Abraham, c'est qu'un homme peut avoir un enfant. Je sais que c'est un problème pour ceux qui peuvent pas avoir d'enfants. Mais au niveau d'une nature non atteinte, eh bien, c'est ça la foi d'Abraham, que l'engendrement est possible. Et Abraham se connaissait comme en infertilité avec Sarah, alors qu'il était fécond avec n'importe qui, Agar. Lorsque Sarah, à un certain moment, a un fléchissement de la confiance, je ne suis plus capable, je ne suis pas capable, alors prends au moins Agar, ma servante, et Midrash va dire que cette servante est la fille du Pharaon. Et qu'au moins ce que toi tu es Abraham jusqu'au stade où tu es, ça reste dans le monde, eh bien, générosité inouïe de ça. Essaye avec Agar. Mais avec Agar tout de suite, Ishmaël est le peuple d'Ishmaël. Et il a fallu que Dieu répète. Vous relirez tous ces textes. Dans les six drôles qu'on a lu la semaine dernière, d'ailleurs, dans le calendrier, répète, mon nom, c'est de Sarah. Et même quand, en fin de compte, Dieu donne la date, dans 9 mois, ça sera de Sarah, Abraham se tourne vers Dieu et dit, bon, fais quelque chose pour Ishmaël quand même. Vous voyez que c'est d'une réalité aveuglante, ce récit. Nous vivons ce récit-là. Alors, il faut bien donc comprendre qu'il y a tout un processus. Et c'est ce que dit le Midrash. Il a fallu que Dieu se révèle de cette manière-là pour faire qu'Abraham reconnaisse que c'est Isaac et Isaac. Est-ce que vous ne percevez pas la perplexité de la société juive contemporaine dans cet Abraham du Midrash-là? Pour arriver à reconnaître, non, que c'est bien les Juifs qui sont les Juifs, que ce n'est pas les Arabes. Alors, vous voyez à quel point... Enfin, comment dire cela? D'une part, la réalité que nous vivons nous explique le mystère des récits d'Abraham, que j'ai mis en évidence dans cette analyse, mais d'autre part, le mystère des récits d'Abraham nous explique la réalité contemporaine. Alors on peut être rassuré parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Seulement à quel prix? Chaz Vechalom, Agudat Israël, enfin tout ce qui se passe dans les coalitions gouvernementales, on ne sait pas quel prix il faut payer. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais que c'est cette histoire que nous vivons, ça me paraît absolument évident dans la perspective de la familiarité de 2000 ans avec ce texte biblique. Bien entendu, ça peut apparaître comme un mysticisme délirant qui n'est pas au courant du texte biblique, en tant que cela a été la méditation permanente de la mémoire juive pendant 2000 ans. ce n'est pas n'importe quelle lecture. Et il s'agit de ce peuple qui est confronté, affronté à ces mêmes, mais les mêmes problèmes. Je n'arrive plus, moi, tellement je suis plongé dans ces études, à percevoir le choc qui consiste à découvrir que ce que le Midrash, ce que la Torah nous raconte, c'est dans les journaux. Et est-ce que c'est vrai? Donc, allons on dit. Et nous sommes arrivés à Kedel et Chavero Veina. Alors on apprend une chose très importante. Il a fallu longtemps pour qu'Abraham se rende compte que le bien-aimé de Dieu, c'était bien Yitzhak et pas Ishmael. Mais il y a la part d'Ishmael, c'est sa part. Mais cette histoire, c'est par Isaac aussi. Alors on pourrait croire que c'est un pitbull midrashique, on trouve le chemin 18, mais quand on est confronté à la réalité, on s'aperçoit de quoi il s'agit. T'as vu ce que là ? C'était très difficile d'être Abraham. Aujourd'hui, dans notre vocabulaire de culture contemporaine, nous disons, il y a les trois monothéismes, et c'est un problème, la famille des trois monothéismes. Mais là, il s'agissait d'Abraham, de ses deux fils, Isaac et ses deux fils. C'est beaucoup plus sérieux que les rencontres de théologiens de la fraternité d'Abraham. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? C'est beaucoup plus sérieux ? Alors je continue. Quel est le chavé Bougaïna, afin de le rendre précieux à ses yeux, de le rendre aimé. Il ne faudrait pas dire aimable, c'est pas ça. Le chavé Bougaïna, c'est de le rendre aimé. Participe passé et accentué. Vérité l'osra à Koldigou, de lui donner un mérite pour toutes les paroles de cette épreuve. Il a un mérite qu'on a désigné son fils. Il a un mérite parce qu'on a désigné son unique. Il a un mérite parce qu'on a désigné le fils unique qu'il aime. Il a un mérite parce qu'on a désigné le fils unique qu'il aime de Sarah, Isaac. À chaque fois, c'est un mérite autre. Et de...
Rachid explique ça autrement. Rachid. Lui, il dit que
ce n'est
pas la
somme, mais que... Attendez, je vais prendre Rachid, juste après, je finis le Midrash, voilà tout. Vous êtes dans l'Agada d'Israël, sur le verset de l'Agada d'Israël. Oui, oui. C'est chapitre 22, non? Je vous dis Rachid, et Bincha, ton fils, Amarlo, je n'ai pas ni Meshli. Non, Rachid, c'est le même Midrash, semble-t-il.
Non, mais c'est la solution, enfin la conclusion,
mais vous allez voir.
Oui, Rachid. La Pessah, vous n'êtes pas l'effrayer tout de suite.
Ah, bon, mais c'est pas contradictoire. Mais alors, il lui a dit, j'ai deux fils, et Yeshli, Amarlo et Tchiridra. Il lui a dit, ton unique. Amarlo Zéachidémo, Zéachidémo, il lui a répondu, celui-là est unique de sa mère, celui-là est unique de sa mère. Amarlo, Ashera Hafta, celui que tu aimes, Amarlo, Shnei Emanioré, les deux je les aime. Amarlo était ça, il a dit Isaac. Velama lo Gilalo Mitrila, et pourquoi il ne m'a pas révélé dès le début? Shelo le Harvevo. Pitom. Pour ne pas le. Le Harvevo, ça veut dire le mettre en confusion. Pitom, subitement. Non, vraiment, je suis désolé, je vais laisser dans le bureau. Mais ta zouz d'Atoharav, et que sa présence d'esprit le quitte, Vetitaref, et s'affole, pour dès les Haber Alav, et pour lui rendre précieuse ce commandement, Vérité Nosrar, Alkol Dibou, Vedibou, et pour lui donner un salaire pour chaque mot du commandement. Donc, c'est très homogène à l'usage de notre vie. Effectivement, il y a dans Rachid un élément supplémentaire pour ne pas l'affoler. Mais vous voyez que Rachid a cité tous les autres éléments du Midrash. Alors on continue jusqu'à la fin. De Amar Mehuna, car Rabhuna, Mishem Rabbi Eliezer Benoche Rabbi Yosef Galilée, au nom de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yosef de Galiléen, Mashehe Akadosh Baruch Hu, ou Matle Enehem Shel Sadikim, Dieu fait attendre et suspend les yeux des justes vers Harkar ou Megalelahem Tarmu, et après seulement il leur dévoile son intention. C'est là-bas la signification de la chose qu'il leur demande. Car, de même, El Haaretz Asher Areka, vers le pays que je t'indiquerai. Alahad Herari Macheromarelecha, par exemple, dans notre texte du Sacrifice d'Isaac, sur une des montagnes que je te dirai. Moria, il y a plusieurs collines. Alors, il reste à Moria, Alahad Herari Macheromarelecha. Ça veut dire, d'étape en étape, le dévoilement se fait plus précis. De même, dans le prophète Jonah, où Kra et Léa et Takiria, Shadonchi, Dover et Lecha, et invoque sur eux l'invocation que je te dirai. Kum tse la bita, vesham ala berotar. Dans Ézéchiel, va vers la colline, vers la vallée, et là-bas je te parlerai. Pourquoi il ne parle pas tout de suite? Voilà, je crois que le thème important, et important pour nous, c'est que toutes ces révélations de la geste des patriarches, pour parler ainsi, sont un processus qui demande du temps et qui demande une ascension longue de niveau à niveau, de mutation d'identité, jusqu'à ce que l'on arrive à être capable de ce dont il est parlé. Il y a là une pédagogie de l'espérance, une pédagogie de la promesse, une pédagogie de l'existence qui contredit cette espèce de boulimie tout maintenant et qui n'a jamais été traditionnelle. Bon, chacun d'entre nous pensera à l'illustration de sa propre expérience à ce sujet. Une espèce d'exigence de l'absolu immédiat, et alors on y renoncera toujours, parce que c'est irréalisable, parce que c'est utopique. La vérité de la réalité, c'est ce processus d'étape, et ça nous est décrit à travers l'histoire des patriarches. Pourquoi Dieu n'a pas suscité d'un coup un Israël? Il suscite Abraham, et c'est très long pour qu'Abraham soit Abraham. Et ensuite il suscite Isaac, et c'est très long pour qu'Isaac devienne le père de Jacob. Et ensuite il suscite Jacob. Et c'est très long pour que Jacob se dépêtre de tous les problèmes, au bout desquels seulement il reçoit le nom d'Ésaü. C'est-à-dire d'Israël, qu'Ésaü lui dispute. Mais ça vient même, si vous avez bien compris. Et bien voilà, c'est ce que je voulais essayer de mettre en évidence dans ce Midrash. La première indication que nous avons eue, c'est à propos de l'identité d'Abraham l'Hébreu, une illustration sur texte que nous avons vue samedi soir. Alors je vais reprendre très brièvement les autres références que je vous ai indiquées, mais d'abord je voudrais une correction. Pour ce qui était la samedi soir, je vous ai indiqué le chapitre 14, verset 17, l'expression Abraham l'Hébreu. Michel Prince m'a fait remarquer, c'était le manque de loup, que c'est le verset 13. Alors en hébreu, Gimel Zayin, c'est parce que la même lettre, je les ai confondus. C'est pas grave, je vois avec plaisir, vous n'êtes pas allé vérifier. alors notez d'ailleurs la correction, d'ailleurs je l'ai prénotée dans la cassette. Et alors, évidemment, ce qui apparaît, je crois que c'est un thème qui maintenant peut être intégré, je répète, à peu près dans la même forme que samedi soir, d'après les historiens classiques, Abraham est un Mésopotamien qui magiquement se trouve hébreu. La vocation d'Abraham, l'élection d'Abraham. D'après notre texte, on apprend tout à fait. C'est que Abraham est un des rescapés de ce peuple des Hébreux en exil dans la civilisation mésopotamienne. Et qui rentre chez lui de sa propre initiative. Sur le chemin, Dieu se révèle à lui pour lui dire, tu rentres au pays de Canaan, alors sache, et c'est pourquoi il faut toutes ces précautions du parcours, que ce qui t'attend là-bas, c'est le sacrifice d'Isaac. Mais ce qui se dévoile là, dans ce livre-là. C'est clair? Alors donc, le prochain texte, ça sera sur le sacrifice d'Isaac, bien sûr. De quoi s'agit-il? On le verra demain déjà, si vous voulez, avant que vous ayez d'autres questions plus urgentes dans l'économie de l'étude. Attendez, c'était d'abord lui, et après.
C'est juste une remarque. Il y avait peut-être beaucoup de temps à cette époque-là pour évoluer. Est-ce que de nos jours, il y a aussi beaucoup de temps?
Dites-moi, 2000 ans, ça ne vous suffit pas? D'ailleurs, ça se relie à... Ça m'échappe. Je voulais vous répondre, mais j'ai pensé à autre chose. Ça reviendra peut-être. À un enseignement d'Isaïe. Qui lo bechipazon tetseu. Et qu'on cite par rapport au chipazon de la sortie d'Égypte. Je m'explique. Chipazon, ça veut dire la précipitation. Chipazon, vous connaissez le mot? La sortie d'Égypte s'est faite avec précipitation. Et alors la pâte n'a pas levé. Vous vous rappelez de ça? Alors Isaïe dit, à la fin des temps, le retour, vous aurez le temps. Oui, mais il y a le temps jusqu'au dernier autobus. Alors il ne faut pas rater le dernier métro. On a le temps depuis 1917. On a le temps. Les portes sont ouvertes en 1917. On ne sait pas quand est-ce qu'elles se fermeront. Et alors c'est long, ce temps-là. Alors pendant ce temps-là, il risque de se passer des catastrophes. Elles se sont passées. Mais malheureusement, espérons que c'est fini. Alors, ma réponse est essentielle. Le temps qu'on avait, c'était 2000 ans. Ok.
Peut-être que le peuple succède les uns après les autres de l'étape d'Abraham. Abraham évoquera les étapes suivantes. Il prend en quelque sorte son parti. Il se rend compte que sa femme est stérile. Alors il dit, bon, après tout, ce sera Eliezer qui sera mon héritier.
Peut-être.
Et comme par hasard, non, non. C'est Eliezer qui a fait.
Bon, d'accord.
Oui. Mais je ne sais pas que ce sera avec Abraham.
Écoutez, si Abraham, je crois que j'ai compris votre question, nous l'avons compris, c'est la même question finalement. Si Abraham était cet homme de foi candide, il suffit que Dieu parle pour qu'il croie, eh bien nous n'aurions pas ce texte. Nous n'aurions pas le compte-rendu de ce processus d'effort. Il aurait suffi à Abraham de croire puisque c'est Dieu qui parle. Abraham discute. Cette promesse que j'entends, elle concerne qui vraiment tu crois, Sarah ? Peut-être c'est Eliezer, et j'ai que ça. Ou entre-temps, Ishmaël est né, à la suite de la générosité de Sarah. Eh bon, d'accord, bon, de Sarah. Mais, et qu'est-ce qu'on fait avec Ishmaël ? Vous comprenez, si Abraham était ce juif croyant sans hésitation, auquel on pense lorsqu'on parle d'Abraham, le croyant charbonnier, je ne sais pas comment dire, eh bien, nous n'aurions pas ce processus. Alors pourquoi la Torah nous le raconte ? Pour nous indiquer que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité, et donc pour nous. Je veux dire, j'ai eu un maître qui m'a dit une fois, en parlant des jeunes gens qui ont des convictions, il dit c'est très dangereux, quelqu'un de jeune qui a une conviction. C'est même suspect. Jeune, conviction, c'est impudique. Et tout le reste du temps de sa vie, à quoi ça sert son esprit ? Parce que les convictions qu'on a jeunes sont destinées à être éclatées. Ou alors c'est de l'orgueil. C'est je ne sais pas comment dire, c'est chutzpah. Quand on entend un jeune mystique avoir des convictions, avant d'arriver à l'évidence. Est-ce que c'est clair ?
Comment ça veut dire ? Ça veut dire donc qu'Abraham ne prenait pas sa partie, que ce soit Eliezer, ni même Ismaël, ni même que. Enfin, maintenant c'est pas d'accord, c'est la question de
Quelle est la question ? Moi je dirais de cette manière, si j'ai compris la question. Abraham a formulé des hypothèses qui se sont réalisées dangereusement dans l'histoire. Eliezer, c'est Eliezer de Damas. Bon, vous avez entendu parler du chemin de Damas, oui, et de la gnose. Donc, eh bien, c'est Eliezer. Et puis l'islam, c'est Ishmaël. Et Abraham nous dévoile un monde d'hypothèses qu'il a fait exister à la racine. Bon, le jour de la réconciliation ultime, tout ça, ça sera un enrichissement. En attendant, il faut y passer et affecter. Est-ce que c'est clair ? Alors, nous découvrons un Abraham gigantesque. Et c'est ça le peuple juif. C'est le peuple juif qui a inventé toutes les hérésies anti-juives. Je ne sais pas si vous savez ça. Okay. Attends, avant la question, vous avez intégré ce que je viens de dire.
Ça veut dire qu'il se rendait compte que ce n'était pas tout à fait cela. Il se rendait compte que c'était une approximation et que ce qu'il voulait, c'est.
Je vais vous lire un verset. Je vous lis de mémoire. Sinon, quelqu'un va aller chercher ma loupe, alors je vous lis de mémoire. À la fin, c'est évident que Sarah enfantera, il s'agira d'Israël, et alors il s'appellera Israël, puisque tout le monde arrive et il ira le dernier. Vous savez, Israël est le vieux au futur. Alors quel est l'argument d'Abraham ? Est-ce qu'une femme de 90 ans peut enfanter ? Est-ce qu'un homme de 100 ans peut enfanter ? C'est pas réaliste.
Tout le monde rit.
En plus que tout le monde rit, c'était une autre idée que je voudrais formuler. C'est pas réaliste. Et on nous cite des nombres, des chiffres démographique, okay. Vous voyez où je n'ai pas envie de dire. Okay. Alors, Abraham, c'est exactement le peuple juif aujourd'hui. On est confronté à une espérance qui n'est pas réaliste. Et voilà, Abraham parle comme nous parlons aujourd'hui, Mais oui, on sait, mais c'est pas réaliste. Eh bien, c'était dès le commencement, histoire d'avoir tout. Attendez, je veux dire que la femme est normale. Et Sarah est normale. Elle a ri quand elle a entendu cela. Eh bien, c'est normal. Dire c'est rassurant, c'est de la bonne santé religieuse. S'il s'agissait d'un personnage de la Bible qui croit une chose invraisemblable, ce serait un mythe. Est-ce que c'est clair, ce que je veux dire ? Attends, la patience. T'as compris le problème ? D'ailleurs, tu suis toujours la ligne de ta question. Et il faut se rendre compte que nous ne sommes pas dans un monde de bande dessinée religieuse. Tu crois, je crois, on croit. On est confronté à une confrontation à la réalité, une interpellation de la réalité. Pourquoi ces personnages de la Bible hébraïque, en tout cas, sont rassurants ? C'est parce qu'ils sont normaux. C'est pas normal que quelqu'un croit une chose invraisemblable. Vous croyez que, parce qu'on croit, il faut qu'on croit à n'importe quoi. Alors la réaction d'Abraham, eh bien, finalement, nous met en nous fait embrayer dans la réalité existentielle. J'avais tout à l'heure presque la tentation d'employer une formulation bergsonienne. C'est, pour ceux qui connaissent la philosophie de Bergson, c'est cet effort de l'élan vital qui doit bousculer tous les obstacles pour pouvoir enfin éclater en germe de bergsonienne. Et c'est pas du tout cette espèce de foi catéchistique que c'est écrit, tu crois, Nebula. D'ailleurs, je crois que ceux qui croient comme ça ne croient pas vraiment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bien.
Une fois enfin qui est arrivé.
C'était trop tard.
Non, il faut sacrifier.
On va voir qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Alors ça, on va voir demain. Il y a eu une mise à l'épreuve. On va passer à un autre niveau de l'épreuve, mais il n'y a pas eu de sacrifice. Malheureusement, nous avons vécu ces épreuves avec sacrifice. Mais en tout cas, dans ce récit, il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que c'est ça ? Voilà, si on a refait exister un Abraham normal à travers ce Midrash, c'est déjà pas mal de choses. C'est la fournaise qui n'était pas normale. Je veux dire, dans ce problème, il y a trois personnages. Il y a Nimrod, le Hitler de ces combats, il y a Dieu et il y a le Juif. Et vous savez ce qui s'est passé au Parlement de l'Allemagne de l'Ouest cette semaine ? Bon, alors on marque parenthèse. Le tiers exclu. Et c'est moi qui n'est pas normal. Abraham est tout à fait normal. Et quand j'ai fait une fois une comparaison entre l'annonce faite à Sarah et l'annonce faite à Marie, c'est à peu près le même récit, mais une grande différence. Sarah rit, on est tranquille, elle est normale, notre grand-mère. Marie, elle croit. C'est pas sérieux. Vous avez compris la différence. C'est de la religion. Enfin, dans le sens pas hébreu. Alors, réfléchissez bien à ça. C'est le Midrash, hein, c'est pas moi. Bien. Alors, quand c'est déjà l'heure, quelle heure est-il ? À 8h. Et nous allons nous réunir à 8h30.
Une petite question.
La cafétéria est ouverte.
Une petite pour moi, une petite.
Oui, oui. Rapidement.
Enfin, une petite, mais à mon avis, on pourra la développer que demain. Pourquoi Haran est mort à Pnéterach ?
Oui. Alors, nous sommes d'accord qu'on avance sur des Midrashim, cette fois sur Agolat. Alors, à demain. Alors, à demain.